pluriel, animé par Loïc Barrière.
Pluriel spécial législative avec Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte ouvrière, candidate à Aubervilliers et Pantin en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors une question d'actualité, Nathalie Artaud, pour commencer, quelle est votre réaction après la décision du président Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat ?
C'est évidemment grossier, irresponsable et stupide. Mais en même temps, je crois que Trump dit tout haut ce que les autres font. Parce que quand il dit que c'est priorité au business, la réalité, c'est que l'accord de Paris laissait la priorité au business. En refusant de mettre en place un certain nombre de contraintes, je rappelle quand même que dans cette fameuse COP21, hein, dont tout le monde se félicite, il n'y avait pas de plafonnement, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre, qu'il n'y avait aucune mesure contraignante, à tel point d'ailleurs que les pétroliers, que toute l'industrie fossile avait applaudi à cet accord. Hein, donc, il déchire le voile, en quelque sorte. Alors, je crois que c'est, au bout du compte, hein, c'est... un petit peu une façon de dire, après moi, le déluge. Mais encore une fois, c'est le propre même de cette société capitaliste. C'est les profits d'abord, le business d'abord, et après moi, le déluge.
Alors, vous étiez candidate aux élections présidentielles, notamment face à Emmanuel Macron, qui l'a emporté après un duel avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez des débuts de son quinquennat ?
D'abord, une des mesures symboliques, une des premières mesures que ce gouvernement a prises, c'est la suspension du compte pénibilité. Eh bien, moi, je crois que c'est effectivement un symbole important, parce que Macron et le Premier ministre l'a expliqué, ce compte pénibilité, il était trop pénible pour les patrons. C'était trop difficile de mesurer la difficulté, la pénibilité du travail quotidien de millions d'ouvriers, de salariés. Ça veut tout dire. Hein, c'est que finalement, tout ce que les patrons, tout ce que les financiers demanderont à ce gouvernement, eh bien, ils l'obtiendront. Voilà. Et vous savez, Macron ne l'a pas caché. Hein. Le programme est assez clair. Il veut aller très vite. Il veut réformer le marché du travail, comme il dit. Libérer le travail. Hein, comme il dit, la réalité, c'est qu'il va libérer l'exploitation. Donc, il n'y a aucun doute, ce gouvernement va attaquer le monde du travail. Il est déterminé pour cela. Il a mis en place un gouvernement qui est un gouvernement de combat pour cela, parce que je vous ferai quand même remarquer qu'aux trois postes importants de l'économie, du travail, du budget, ce sont des ministres de droite. Le Premier ministre vient des rangs des Républicains. Donc, c'est clair, c'est un gouvernement de combat et il faut que les travailleurs se préparent à se défendre.
Alors, outre les ministres de droite, il y a aussi des ministres issus de la société civile, comme Nicolas Hulot ou la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces ministres qui ne sont pas encartés politiquement ?
Mais Nicolas Hulot, c'est évidemment un cas à part. Manifestement, il sert de faire valoir à ce gouvernement. On va bien voir dans les mois qui viennent ce qui va se passer, si ses convictions écologistes, si son engagement du côté de l'environnement va tenir face aux pressions. Hein, qui existe déjà de toute façon, y compris sur la construction de Notre-Dame-des-Landes. Nous disons, nous sommes convaincus que protéger l'environnement, la nature, mais comme protéger les droits des travailleurs, les conditions de vie des classes populaires, ça signifie un bras de fer résolu avec le grand patronat, avec les financiers. Parce que ces gens-là, ils ne jurent que par leur profit, que par leur rentabilité. Et ce bras de fer... Il est certain que le gouvernement ne veut pas le mener, puisqu'il est dans le camp de la bourgeoisie et des financiers. Donc, on verra bien. Hein. Et quant à la société civile, moi, je trouve que c'est un mot qui masque une réalité. Hein. C'est que dans ce gouvernement, d'accord, il y a des gens qui sont sans engagement partisan, hein, qui sont autour de la table. Mais moi, je compte aucun ouvrier, je compte aucun chômeur, et je compte même aucun petit commerçant, petit artisan, aucun patron qui peut travailler dans le coin de la rue. Hein, c'est tous des femmes et des hommes qui, en fait, sont qui côtoient la bourgeoisie, les cercles du pouvoir depuis des années.
Alors, Emmanuel Macron semble fasciner une partie des Français qui lui reconnaissent un parcours sans faute sur les questions internationales et régaliennes. Vous ne partagez pas cet enthousiasme ?
Un parcours sans faute, pourquoi ? Parce qu'il sait serrer la main de Trump ? En jouant des muscles ? Non mais franchement, c'est de la comédie. C'est assez incroyable d'ailleurs que la politique en soit réduite à cela.
C'est de la communication.
Mais c'est de la communication complète. Enfin bon, voilà, il nous a joué l'héritier du roi soleil, Louis XIV, recevant dans ses murs son alter ego de Russie. Il a joué l'héritier de De Gaulle, remontant les Champs-Élysées dans un véhicule blindé le soir. Le soir de sa victoire, il a posé tel le pharaon devant sa pyramide. Enfin bon, tout ça, franchement, c'est de l'affichage, c'est du marketing. Et vous savez, comme toute opération marketing, ce qu'on nous vend, c'est du vent. Voilà, du vent. Le vent du renouvellement. Mais on voit bien que ça ne tient pas une seconde. Regardez d'ailleurs comment... il a renouvelé une chose. Ce sont les noms de ceux qui sont visés par la justice pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics.
Alors avant de parler de votre candidature, Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière a investi cette année 522 candidats dans toute la France. Quel est l'enjeu de ces législatives pour Lutte ouvrière ?
Alors nous sommes présents dans 553 circonscriptions.
Alors j'ai mal lu, oui.
Effectivement, dans les circonscriptions de la Martinique et de Guadeloupe, c'est avec nos camarades de combat ouvrier. Mais nous sommes présents, donc, à Lutte ouvrière et combat ouvrier dans 553 circonscriptions, dans toutes les circonscriptions en fait de métropole, Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Et toujours pour faire entendre le camp des travailleurs. Voilà, parce que justement, je l'ai dit, ce combat doit continuer. Nous allons être dès demain attaqués. Attaqué par tous les bouts, ça va être les attaques contre les allocations chômage, ça va être la réforme des retraites, ça va être cette réforme du marché du travail, ça va être les 120 000 postes de fonctionnaires en moins, et il va falloir se défendre. Et ça, cela dépend de notre conscience collective, de cette conscience que nous avons des intérêts communs, et de cette conscience que d'ailleurs les choses ne se joueront pas à l'Assemblée nationale. Parce que là, dans ces législatives, les uns ou les autres sont en rivalité pour jouer le premier rôle de l'opposant à l'Assemblée nationale. Mais il faut le dire, Macron trouvera les députés pour voter ces attaques anti-ouvrières. Et ce qu'il va falloir faire, c'est résister dans les entreprises, dans les rues, dans les quartiers populaires, affirmer nos droits et dire non à cette flexibilité à tout va. Dire simplement, quand on est travailleur, quand on est ouvrier, quand on est chômeur, on n'est pas des machines. On a une vie, on a une famille, il faut nourrir ses enfants tous les mois. On ne peut pas être débranché, rebranché au gré du marché et des aléas de la production. Donc il faut que les travailleurs affirment leurs droits, leurs intérêts, qu'ils se battent sur le terrain de classe. Et nous, dans ces législatives, nous voulons signifier que oui, le camp des travailleurs, il existe. Il y a des femmes et des hommes qui le constituent et qui ne se laisseront pas faire.
Vous vous attendez à une forte mobilisation sociale sur le terrain à la rentrée, à l'image de ce qui s'était passé par exemple durant l'hiver 1995 ?
J'espère que ceux qui sont battus contre la loi El Khomri seront là et seront encore plus nombreux effectivement pour que on arrive à construire un rapport de force tel qu'en 95. Alors je ne sais pas si c'est de bon augure, mais par exemple Édouard Philippe était le bras droit de Juppé, et c'est Juppé en 95 qui a dû effectivement céder à la rue. Et bien moi j'espère que c'est finalement de bon augure, mais encore une fois ça dépendra de la combativité, évidemment, mais cette combativité, elle doit se préparer aussi dans les têtes. Et elle doit se préparer donc dans le combat politique. Il ne faut pas laisser de terrain à tous ces mensonges patronaux, justement sur la nécessaire adaptabilité, flexibilité, sur les contraintes qui seraient trop importantes pour le patronat. Il faut dire et redire, écoutez, le grand patronat aujourd'hui, il a tout ce qu'il veut en termes de flexibilité. Donc il faut inverser cela.
Et vous avez eu l'occasion de vous exprimer lors de l'élection présidentielle. Vous avez eu le sentiment que votre message est passé quand vous allez sur le terrain.
Oui, j'ai eu le sentiment que beaucoup de salariés, beaucoup de chômeurs, des ouvriers, des employés se sont reconnus dans la dénonciation que j'ai faite de l'exploitation. de cette course à la rentabilité, de ce rôle que tient aujourd'hui la grande bourgeoisie sur l'économie. Et bien sûr, il y a eu le vote utile, il y a eu tout un tas d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte au moment des élections. Et les 230 000 électeurs qui se sont reconnus et qui ont voté pour moi, eh bien justement, l'ont fait sur ce terrain-là pour dire, eh bien nous, notre camp, c'est celui des travailleurs. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est effectivement accéder à un emploi, à un salaire correct, à une retraite digne. Et ça, moi j'entends que ça a débordé, y compris l'électorat que j'ai pu regrouper sous mon nom.
Et quel est le profil des candidats que Lutte Ouvrière a investi? Comment ont-ils été choisis? J'imagine qu'il y a de nombreux ouvriers et de nombreux chômeurs.
Bien sûr. Ce sont des salariés qui sont en activité, qui sont au chômage pour certains, qui sont à la retraite pour d'autres. Mais ce sont tous des femmes et des hommes qui, pour gagner leur vie, doivent travailler. Hein, qui se situent du côté des exploités, de ceux qui, toute leur vie, ont dû se battre justement pour faire respecter leurs droits et qui incarnent effectivement le camp des travailleurs.
Lutte Ouvrière, vous le dites, a très peu de chances d'être représentée à l'Assemblée nationale malgré cette campagne des législatives.
Vous savez, s'il y avait la proportionnelle, nous aurions des députés. La réalité, c'est que c'est un scrutin majoritaire où, effectivement, les grands partis ont une prime. Mais encore une fois, nous avions, même avec le score que j'ai réalisé à la présidentielle, nous aurions des députés. Maintenant, moi, je le dis, y compris dans la circonscription où je suis présente, où je suis un peu plus connue, eh bien là, peut-être que je peux faire davantage de voix. Et peut-être aller bien plus loin qu'à la présidentielle. Et je le dis à ceux qui nous écoutent, qui habitent en Seine-Saint-Denis, dans la circonscription
Alors,
où je me présente.
Pantin-Aubervilliers.
C'est que justement, envoyer une députée communiste révolutionnaire à l'Assemblée, eh bien cela permettrait de continuer de faire entendre cette voix, ses intérêts propres aux travailleurs, aux ouvriers, aux chômeurs, dans tous les combats politiques. Oh, ça ne suffirait pas pour inverser le rapport de force et pour inverser la vapeur. Peur. Il faudrait évidemment les luttes, la mobilisation, etc. Mais ça l'encouragerait, ça porterait justement politiquement les intérêts, ça permettrait aux travailleurs de s'armer politiquement. Donc oui, ça serait quelque chose effectivement d'important.
Alors comment se passe la campagne sur le terrain? Lutte Ouvrière a un fort réseau militant. J'imagine que vous êtes pleinement mobilisé depuis le début de la campagne électorale.
Oui, bien sûr. Ça veut dire que nous distribuons des tracts dans les entreprises, que dans les entreprises où nous sommes, nous continuons à militer pour que ce geste soit fait aux législatives, que justement les travailleurs ne tombent pas dans le piège d'avoir à apporter leur caution à un parti bourgeois qui se place du point de vue de ceux qui dominent, du point de vue des riches et du point de vue de la bourgeoisie, mais qui vote et qui renforce leur propre camp, leurs propres revendications. Encore une fois, c'est quelque chose d'important parce que le combat, il doit commencer dans les têtes et montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui sont lucides, qui sont conscients de leurs intérêts et du combat qu'ils ont à mener pour les faire respecter. C'est quelque chose qui nous fait avancer.
Vous recevez un bon accueil dans les rues de Pantin et Aubervilliers. Je crois que vous vivez à Aubervilliers. En tout cas, vous y travaillez.
J'habite à Pantin, je travaille à Aubervilliers.
Voilà.
Et oui, bien sûr, je vais devant les bouches de métro, à la gare, sur les marchés, et je rencontre beaucoup de gens, y compris ceux qui ont voté pour moi à la présidentielle, qui sont très heureux de pouvoir m'encourager et me dire qu'il fallait que je continue. Et pour moi, c'est l'occasion de leur dire oui, mais il faut continuer ensemble, que moi seul, je suis quand même assez démunie. La force des travailleurs, elle est collective. Elle est collective. Donc moi, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans les idées que je porte à nous rejoindre, à venir participer à la construction de notre courant, de notre parti. Parce que regardez, aujourd'hui, tout le monde crée son parti. On a la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
J'allais vous en parler.
On a Macron,
justement.
Il crée son parti, etc. Mais ce sont des partis qui sont électoralistes, y compris ce sont des machines de guerre d'abord et avant tout électorales. Nous voulons construire un parti de militants, de femmes et d'hommes qui soient présents dans les entreprises, dans les quartiers et qui s'engagent dans les combats de tous les jours, au quotidien. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut se battre pour tout. hein, au jour le jour, que ce soit dans son entreprise, pour faire respecter les pauses, pour faire respecter le paiement des heures supplémentaires, pour mais même dans les quartiers populaires, à Aubervilliers, les combats contre des factures indues d'eau dans les HLM, mais c'est tous les jours. Donc il faut un réseau de militants pour cela. Et nous, c'est exactement cela que nous voulons construire.
Quels sont les sujets qui viennent en premier quand vous rencontrez les habitants de Pantin et d'Aubervilliers?
C'est le chômage, le problème de l'emploi, le salaire et le logement. Et le logement qui est une catastrophe, qui est un véritable drame pour des familles qui attendent parfois un logement social depuis 10, 20, 30 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui m'expliquait avoir fait sa première demande il y a 30 ans. Donc c'est un véritable drame, parce que bah oui, tout ça, c'est quand on n'a pas un logement digne, la vie est infernale.
Alors Nathalie Arthaud, on peut vous rencontrer à Pantin, Aubervilliers, mais ce week-end, vous serez dans le Val d'Oise à Presles, à l'occasion de la traditionnelle fête de lutte ouvrière, le week-end de la Pentecôte. Cette année, on prévoit du beau temps, plus ou moins, en tout cas le dimanche. Qu'est-ce qui est prévu lors de ce week-end?
Donc il y a trois scènes de musique, de spectacle, de théâtre, mais il y a aussi les jeux pour les enfants, évidemment, les débats, toutes les discussions, on invite beaucoup d'écrivains, il y a une cité médiévale, il y a une cité des sciences, des cinémas, donc c'est une fête qui est simple, qui est populaire, qui est fraternelle et qui est familiale, où à la fois on passe du bon temps et où on découvre aussi un tas de choses.
Alors vous conseillez de venir avec les enfants, mais en tout cas plutôt par les transports en commun.
Oui, les transports en commun sont très pratiques, puisque de la gare du Nord, c'est 38 minutes en train. Avec le pass Navigo des Aunais, ça pose moins de problèmes. Et puis parce qu'il y a des navettes gratuites aussi au départ de Saint-Denis, l'université. Donc c'est très facile d'y accéder. Bon, bah, il faut partir pour la journée. Mais c'est un grand parc qui peut accueillir effectivement tous ceux qui aiment se balader. Il y a aussi un acrobranche, il y a un mur d'escalade. Donc effectivement, c'est vraiment un lieu de rencontre, encore une fois, fraternel, populaire, où justement on fait la démonstration que oui, quand on est entre, d'abord, que une organisation comme la nôtre, de militants, peut faire beaucoup de choses, peut créer justement des moments comme ça, magiques, et puis des moments de rencontres, de discussions et de grande fraternité.
Alors j'en reviens à la campagne des législatives. Plusieurs sondages affirment que les candidats En Marche pourraient obtenir la majorité. Comment expliquez-vous ce succès annoncé alors que ce parti n'existait pas il y a encore quelques mois, et que les candidats ont eu très peu de temps pour faire campagne, puisqu'ils ont été investis après l'élection présidentielle?
Non, mais d'abord, fondamentalement, Macron a profité de l'usure des deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis des décennies. Il avait une petite fenêtre. Alors son talent a été de s'y engouffrer. Mais il faut dire aussi que Macron, c'est pas le perdreau de l'année. La réalité, il y a eu tout un mythe de Macron, l'homme venu de nulle part, débarqué comme ça. En fait, Macron est dans les cercles du pouvoir depuis 10 ans. Il a été formaté. Il a fait toute l'école, toutes les écoles du pouvoir, et il a été formaté par la bourgeoisie, et il a été présélectionné par la bourgeoisie, y compris, il a été financé dans sa campagne par cette bourgeoisie, et puis il a été quand même intronisé par tous les propriétaires des grands médias, parce qu'effectivement, Macron, il a eu toute cette possibilité-là d'être relayé, d'être intronisé par tout ce monde-là. Donc finalement, il ne lui a fallu qu'un peu plus de culot que les autres, un peu plus d'ambition que les autres, pour tirer son épingle du jeu.
Et comment expliquez-vous que des jeunes se découvrent une passion pour la politique grâce à Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise?
Moi, je crois que à chaque période électorale, il y a effectivement un petit regain de politisation, d'intérêt justement pour les idées, pour la société, Jean-Luc Mélenchon, oui, il a distillé beaucoup d'illusions, il a fait croire que en élisant monsieur Mélenchon à la présidence, eh bien on allait pouvoir transformer la France, parce que c'est d'abord la France sans souci, et puis peut-être plus encore encore. Bon, mais voilà, moi, je n'ai cessé de dénoncer cela parce que toute l'histoire du mouvement ouvrier a prouvé une chose, c'est qu'il n'y avait jamais de sauveur, un suprême pour les travailleurs, que transformer le sort des travailleurs, ça dépend de leur combativité et de leur conscience. Donc voilà, je sais bien que les illusions, c'est quelque chose qui se vend bien en période électorale, mais voilà, les travailleurs n'ont pas besoin de nouvelles illusions, ils ont besoin de conscience.
Merci Nathalie Artaud, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière, candidate à Aubervilliers et Pantin en Seine-Saint-Denis. Il y a des candidats de Lutte Ouvrière dans toutes les circonscriptions de France. Et puis, je rappelle cette fête de Lutte Ouvrière, ça se passe après, on peut dire encore où ça se passe exactement, c'est dans le Val d'Oise.
Donc c'est dans le Val d'Oise, le long de la Nationale 1, en direction de Beauvais, tout est fléché, et c'est... Voilà. Mais venez en transport en commun. Et surtout, venez nombreux.
Samedi, dimanche et lundi.
Et lundi.
Merci Nathalie Artaud.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.